Interview. 1.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
Des anarcho-syndicalistes, troisième et dernière partie. Bienvenue sur Radio Diwa 107.5 et rdwa.fr. Trois séries d'entretiens sur l'anarcho-syndicalisme et les situations sociales dans différentes villes de France présentées par des anarcho-syndicalistes qui nous ont accordé leur confiance pour exprimer leur subjectivité, leur pratique ou parfois leurs doutes. Ces entretiens ont été collectés à l'occasion d'un congrès de leur organisation, la CNTAIT, qui a eu lieu à Gap, les 2 et 3 novembre 2013. Cet instantané constitue un état des lieux, à la fois partiel, tous les syndicats n'étaient pas présents à ce congrès, subjectif, chacun, chacune s'exprime en son nom, et provisoire, cette présentation radiophonique veut contribuer, modestement mais sûrement, à inventer d'autres futurs. Des anarcho-syndicalistes, troisième partie, écoutez.
Dire éventuellement en deux mots pourquoi tu es là, le contexte, et parler de la situation sociale de la ville dont tu viens.
Voilà, je m'appelle Jeannot, je suis militant de la CNTAIT de Pau. Actuellement, et je suis donc à Gap pour le congrès qui concerne tous les points de l'AIT, puisque la CNT appartient à l'AIT, Association Internationale des Travailleurs, la première internationale, qui est la seule qui fonctionne en réalité, encore, sans subvention, sans permanent. C'est pour ça que je suis dans cet esprit-là, et dans cette CNT-là. Après, à Pau, c'est à une Pau, petite ville de 80 000 habitants, 120 avec l'agglomération. La ville interne, c'est très bourgeois, c'est une ville de commerçants et de fonctionnaires. Un peu autour, il y a la plaine de Mourenx, où il y a beaucoup d'industries, c'est la chimie, le gaz, Total, etc. Il y a eu des villages ou des petites villes à côté avec de fortes implantations, de la métallurgie, des trucs comme ça, qui ont plus ou moins disparu. Et donc, socialement, c'est comme la France, c'est la déprime, des taux de chômage un peu moins bas qu'ailleurs, parce qu'il y a encore le bassin de Lac et de Mourenx où il y a beaucoup d'emplois. Mais après, c'est assez triste, assez déprimant de militer. Les gens sont abattus et au lieu de se révolter, ils préfèrent ne pas prendre du tungstène ou des palliatifs, la télévision, Internet. Ils ont des amis sur Facebook, mais ils n'ont jamais vu personne dans leur vie.
Ça, c'est la situation sociale à Pau.
Ouais, et en France globalement, je pense, visitant grâce à la CNT, allant dans des villes à droite, à gauche, on aperçoit que c'est ça actuellement.
Quelles sont les différentes actions du syndicat? Comment s'appelle ce syndicat?
C'est le STB, Syndicat des Travailleurs du Béarn. Rien que pour ce début d'année, on a trois sections qui fonctionnent. La section chômeur, la section de la clé c'est la coordination libertaire étudiante, c'est la section étudiante de la CNT. Et la section éducation. Donc la clé, ils ont fait des tables de presse pour se dire tous les jours. Ils ont participé à des AG sur l'ITS essentiellement où il y a eu des problèmes. L'éducation, eux, ils ont fait 2-3 réunions. Ils ont été mobilisés en début d'année par rapport au changement d'horaire, les nouveaux horaires, tout ça, pour exiger qu'il y ait du monde. Pour essayer de faire aussi titulariser des anciens AVS, EVS. AVS, c'est aide à la vie scolaire, EVS, employé de vie scolaire. Alors, ça se déclinait dans tous les sens, cette histoire. C'est-à-dire que des EVS pouvaient être aider des élèves, donc auraient dû s'appeler AVS, et certaines AVS faisaient du secrétariat, donc auraient dû être EVS. En plus, Le problème, c'est qu'il y avait des contrats de l'éducation nationale et d'autres de contrats de droit privé, qui dépendaient du droit privé, financés par la NPE, etc. Et sur ces contrats de droit privé, on a mis l'éducation nationale en procès, parce que dans ce contrat, les nanas étaient bien moins payées, puisque c'est essentiellement des nanas, et des fois un ou deux gars, mais bon, les personnes étaient beaucoup moins payées, en échange d'une formation. Ils n'ont jamais eu cette formation. Et tous les procès qu'on a intentés à l'éducation nationale, on les a gagnés. Donc là, ça a été une lutte qui a duré 4 ans, qui a été longue. Dommage que les gens n'aient pas tous adhéré à cette lutte, parce qu'il y avait quand même 200 personnes concernées. Il n'y en a que 6 qui sont allés jusqu'au bout de la lutte. Mmh. Mais les 6 se sont vus, avoir des dommages intérêts de l'ordre entre 7 et 9 000 euros pour des gens qui sont à la rue ou RSA, ben c'est pas mal. Ça leur met un peu de beurre les épinards pendant quelques mois. Et surtout, une obligation de les rembaucher avec une formation. Alors pour le moment, c'est des contrats de 3 ou 6 ans, renouvelables une ou deux fois, je ne sais pas trop. Et on essaye de faire en sorte, dans l'éducation nationale, que ces gens-là soient titularisés. De même que les gens qui vont dans les écoles primaires pour aider, suite à la nouvelle réforme de l'éducation nationale, que ce ne soit pas des précaires que l'on va balancer et on en prend chaque année des différents, etc. Et après, la section chômeurs, cette année, on a fait 5 distributions de tracts, 2 collages sur la ville. Et après, il y a l'Interco, en fait, qui est l'ensemble des 3, où on a participé à déjà 2 actions, une contre l'armée. Et donc, on est allé faire un défilé avec une troupe théâtrale devant l'Université de la Défense, qui a eu lieu à Pau. Bon, on a été bien reçus par pas mal de policiers et tout ça, donc on n'a pas pu s'approcher de nous très très près. Heureusement, ceux qui ont fait du théâtre, on s'est un peu séparés quand on est arrivé devant. Ils n'ont pas trop compris, ils croyaient que c'était une animation et que nous on était des récupérateurs derrière. Donc les copains qui faisaient du théâtre, on peut se foutre de leur gueule, tout ça. Bon, on est parti. On a réussi à attraper la mère aussi après, le lendemain, avec la même troupe de théâtre, devant le colloque qu'elle organisait avec des ministres, secrétaires d'État, tous les grands penseurs qui gaspillent nos pognons pour les armes, là. Et donc, on l'a interpellé. Et une deuxième action que l'on a faite, c'est la ministre de la Santé qui venait à Pau et visitait un lieu qui était justement dans notre rue. Donc, on a ouvert le local spécialement ce jour-là et on a agressé la mère, on a interpellé la mère par rapport à des jeunes qui étaient à la rue.
Oui, en plus, tu me disais interpeller gentiment
micro.
Hein, là, c'est, oui, elle l'a peut-être pris comme une agression.
Mais oui, elle l'a pris comme une agression. Après, nous, on est anarcho-syndicalistes, on est anarchistes, on n'est pas poseurs de bombes. On est des gens, on dit ce qu'on a à dire et on le dit dans le respect, parce qu'on respecte les gens, on respecte les individus. Voilà. Et après, là, on va faire, après ce congrès, en projet, on a une semaine sur les Roms, l'art rom, la culture rom. Parce qu'il y en a ras le cul que un fils d'immigré fasse exclure des Roms et stigmatise systématiquement les Roms, Weiss pour ne pas le nommer, qui est un catalan, et espagnol d'origine. Et donc on va faire toute une semaine là-dessus, avec une copine qui est rome elle-même, qui a une caravane itinérante d'exposition. On va essayer de faire venir des intervenants roms. Si on peut avoir les cirques romanesques pour venir, ça serait, c'est pas encore sûr. Après, on a les journées libertaires qui vont arriver.
Qui sont sur l'université ?
Qui sont sur l'université essentiellement et un peu sur le local aussi. Il y a 3 trucs sur l'université, un concert et une conférence au local. En général, la dernière conférence au local, plus sûrement une action qui se fera sur la ville après.
Est-ce que les dates sont connues déjà ou approximativement ?
Février, ça sera fin février, du 22 au 29, je pense. Ça sera la dernière semaine de février. C'est la semaine où les lycées sont fermés, mais où la fac est encore ouverte dans l'académie de Bordeaux, quoi.
Et si on va à Pau, on trouvera des affiches.
Il y aura des affiches
déjà avant, comme chaque année, où
voilà,
il y
aura
des affiches bien éclatantes.
Il y aura, de toute façon, ça sera dans toute la presse libertaire annoncée. Normalement, puisque jusqu'à maintenant ils nous annonçaient. Et donc le programme va être finalisé dans 15 jours maximum. Et donc ça sera envoyé dans toute la presse libertaire. Et voilà quoi. Donc Après, il y aura le train-train habituel, il va y avoir des élections, donc peut-être qu'on fera des actions contre les élections aussi à ce moment-là. Après, on voit, on s'adapte à l'actualité, et peu à peu...
Pour vous contacter, tu peux donner l'adresse, l'adresse du local, puisque
l'adresse,
vous avez un local à Pau.
CNTAIT, 18 rue Jean-Baptiste Carreau, 64 000 Pau, ou alors cnt64@yahoo.fr. Voilà, okay. C'est le plus simple.
Et ces adresses seront rappelées sur la page internet de l'émission consacrée à cette série d'interviews. Voilà. Bah, merci Jeannot.
De rien.
De la situation sociale dans la ville d'où tu viens et peut-être plus précisément dans le secteur dans lequel tu es.
Alors, je suis une militante de 38 ans, j'adhère à l'Union locale de Bordeaux. C'est une ville d'un million d'habitants, pas tout à fait quand on compte l'agglomération. Tu peux couper.
Comment toi tu as rencontré l'anarcho-syndicalisme ? Qu'est-ce que ça a fait changer en toi et...
Alors j'ai pas rencontré l'anarcho-syndicalisme. J'étais à la fac quand il y a eu en 1995 un projet de modification des cursus universitaire. Et on a commencé à s'organiser à plusieurs étudiants avec le soutien d'un militant de la CNTAIT. Très vite, on a intégré des pratiques. De fait, étant donné qu'on n'était que quatre, on a intégré des pratiques où tout le monde décidait et tout le monde faisait. Bah, vite après ça, j'ai décidé d'adhérer à la CNTAIT. Et quand je me suis salariée, j'ai continué à adhérer. J'essaie de militer sur mon lieu de travail, je suis fonctionnaire.
Quelle vision tu as de l'anarcho-syndicalisme ?
L'anarcho-syndicalisme, je le mets en pratique, donc ma vision, elle est pas, c'est pas une vision, c'est un vécu qui me semble bien ancré dans la réalité et j'allais dire quelque chose d'intéressant.
Ouais.
Ce qui me peine un peu, c'est que par rapport au fait que ça me semble quelque chose d'accessible d'emblée, enfin, le fonctionnement anarcho-syndicaliste est accessible et facilement, enfin, se met facilement en pratique. Malgré ça, je pense qu'on n'est pas ambitieux et que on hésite sur nos lieux de travail, par exemple, à s'implanter en tant que section syndicale et à montrer qu'on a notre place dans les luttes sur les revendications quotidiennes et qu'on est loin d'être une organisation uniquement idéologique.
Donc toi, tu penses que l'anarcho-syndicalisme a sa place dans les luttes ? C'est ce que tu...
Oui.
Ouais. peux faire ma remarque sur le sexe ratio?
Vas-y, ah, tu explicites. Alors, d'abord, coup, hein, oui. Parce que je vois un petit peu ce que c'est, le nombre de femmes sur le nombre d'adhérents.
À ce congrès
Il y a très peu de femmes.
Voilà, il y a entre 15 et 20% de femmes en confondant les observateurs, observatrices et les mandatés, ce qui viennent de différentes régions de la France. Est-ce que toi, soit toi dans ton syndicat, ou est-ce qu'au niveau national peut-être, ou au niveau international, il y a une réflexion ou est-ce que ça correspond à quelque chose dans ton syndicat aussi?
Il n'y a pas de réflexion organique dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de motion qui est discutée là, à ce congrès par exemple, ni au congrès précédent. Ce que j'observe, je me suis fait la réflexion que tu t'es faite, hein, enfin j'ai fait la même observation, mais par contre j'y réfléchis, ça ne correspond pas du tout au rapport homme-femme qu'on a dans notre syndicat à Bordeaux par exemple.
Okay.
Ceci dit, les femmes sont toujours minoritaires dans mon syndicat comme dans les autres syndicats. Nous, c'est à peu près 40%. Ça me pose problème. Mais on n'a pas eu de réflexion collective dessus.
Jean-Philippe Travé, je viens de Pau, je suis militant à la CNTAIT depuis quelques années. Je fais partie aussi des éditions du Temps Perdu, qui ont été montées par des copains du syndicat et des copains sympathisants proches. Voilà, on a sorti un certain nombre de livres. D'abord, pourquoi le Temps Perdu? C'était par rapport au poème de Prévert. Au départ, c'était l'idée, c'était pas forcément de faire de très très gros ouvrages, mais au moins d'avoir des ouvrages qu'on pouvait lire au boulot pour récupérer un peu le temps que le patron nous prenne. Et le poème de Prévert, c'est celui où il dit « Dis donc, camarade soleil, tu trouves pas que c'est plutôt con de laisser une journée pareille à un patron ?» Et donc voilà, c'est un clin d'œil à ça. Donc on a fait des livres qui sont ou des livres d'écrivains, de gens qui font des recherches sur historiques sur l'anarchisme pour l'instant. Et notamment un livre pour le centenaire de la mort d'Élisée Reclus sur la pensée libertaire d'Élisée Reclus, parce qu'on avait vu qu'il n'y avait rien là-dessus. Et donc on a, sous différents aspects, traité par plusieurs auteurs l'influence les idées d'Élisée Reclus, son influence sur le mouvement anarchiste un peu partout, avec la collaboration d'un copain de la militant à l'AIT qui est russe, qui parlait des liens entre Kropotkine et Élisée Reclus, un copain de Pau qui avait parlé de l'influence des idées anarchistes de Reclus et de Kropotkine sur la géographie, un autre vieux monsieur qui avait fait d'Orthès, la ville où avait vécu Reclus pendant son enfance, un texte sur l'idéal anarchique de la brochure de Reclus. Et puis une copine spécialiste du mouvement argentin qui expliquait l'influence de Reclus en Amérique latine. Il a eu beaucoup d'influence en Amérique latine et en Espagne. Et donc un copain de militant de la CNT espagnole qui avait fait un texte sur l'influence de Reclus, des idées de Reclus en Espagne.
D'accord.
Ça c'est le premier, 2005.
Après, d'accord, c'est la date de la création des éditions du Temps
oui,
Perdu.
Oui, on avait sorti un petit livre avant sur Una Brown, celui qui avait fait l'International des résistants à la guerre, et qui existe toujours, dont fait partie l'Union pacifiste, avec une introduction qui était un texte introuvable aujourd'hui de MD, militant anarchiste belge et non-violent, sur Una Brown. Après, on a sorti un livre sur une lutte locale que soutient la CNT dans les Landes, donc dans notre région. On soutient une association, c'est le site d'Abesse. Et on a fait aussi un livre sur le congrès d'Amsterdam en 2007, pour le centenaire. Donc là, avec différents spécialistes. Ariane Mieville, qui avait fait déjà, j'avais oublié, dans le Reclus, la période de Reclus en Suisse. Donc qui avait fait un gros travail sur le congrès d'Amsterdam, Manfredonia, qui parlait plutôt ce qu'avait fait à l'époque du congrès d'Amsterdam, donc où on avait d'un côté Malatesta et de l'autre Monnat qui s'affrontaient. Et lui, il expliquait que Luigi Fabri avait déjà en 1906 pressenti un peu ce qui sortirait de militant après ces débats-là et qui va donner l'anarcho-syndicalisme. Et Hélène Finet qui nous avait fait le congrès d'Amsterdam vu sous la réalité argentine.
Donc là, tu dis un livre. Ouais. En fait, il s'agit de trois volumes, hein, si j'ai bien vu.
Il y a trois volumes.
Votre table de presse sur ce sujet pointu.
Voilà.
Assez pointu. Quoi,
comme c'est assez pointu, on l'a sorti en trois volumes pour ceux qui sont intéressés par les différents sujets. Et un livre commun qui englobe tout.
Voilà. D'accord.
Donc après, on a fait d'autres livres. Hein. Moi, j'ai écrit un livre sur les anarchistes et la Commune de Paris en 2011. On a sorti dernièrement le seul livre qui est en France sur l'histoire de l'internationale, de la première internationale, l'a été refondée en 1922, de François Guinchard.
Et qui raconte l'histoire de l'internationale jusqu'en 1936.
Voilà. Puis on a fait aussi un livre qui s'appelle « Ni Dieu, ni patron, ni mari » sur des féministes anarchistes du début du siècle en Argentine. Et l'argent, c'est pour aider les copains argentins.
Et qui est aussi fait par Hélène Finet.
Voilà.
Est-ce que tu peux parler des éditions, comment ça s'autofinance ou comment pratiquement c'est possible aujourd'hui de monter une maison d'édition? Est-ce que ça a été accessible? Est-ce que ça a été très difficile?
Mais c'est assez modeste. Hein. On fait des petits tirages en infographie. On retire au fur et à mesure. Ça permet d'éviter d'avoir de trop gros frais. Et c'est par le réseau militant qu'on fait la diffusion. Parce que le gros problème, c'est de passer par un diffuseur.
Ok, cependant, si on commande vos livres en librairie, ils sont référencés et peut les avoir.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mm-hmm.
Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur cette maison d'édition?
Bon, il y a des bouquins en préparation. On va ressortir « La science et l'anarchie » de Kropotkin. Ça a été réédité il y a quelques années, mais je crois que maintenant, on ne le retrouve plus à nouveau. Donc c'est pour ça qu'on a envie de le ressortir. Hein. Et on a un livre sur les communautés paysannes pyrénéennes, notamment au Pays Basque, et les communautés paysannes sans État, la tradition dans les montagnes pyrénéennes. Voilà, qui a été sorti déjà en Espagne par une copine, qui a bien marché, et qu'on veut sortir en français.
Ok, ben je te remercie pour toutes ces précisions, et j'espère que ça donnera envie aux auditeurs, aux auditrices de lire après avoir écouté la radio.
Ok,
merci JV.
Merci.
Aussi en quelques mots, la situation sociale sur la ville d'où tu es et la façon dont tu es organisé ou la façon dont tu luttes sur place.
Alors moi je suis Hélène, à la base je suis membre de la Fédération anarchiste, mais je suis surtout membre dans mes luttes du collectif anarchiste Calucha, au Alpin en fait, qui regroupe des gens de l'AFA, de la CNTIT, des autonomes et même parfois des gens désabusés du NPA, des syndicats, de diverses organisations qui trouvent que c'est mou chez eux, alors ils viennent militer chez nous.
Calucha, c'est l'acronyme de quelque chose?
Ouais, c'est Collectif Anarchiste de Lutte et de Résistance au Alpin.
Et donc ça explique que là vous êtes deux à vous occuper de la logistique anarchiste du congrès et vous n'êtes pas à la CNT-AIT.
Ben non, puis en plus on est potes hein, depuis le temps. Ça fait un moment qu'on traîne ensemble et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a ce petit noyau, on est 5-10 et en fin de compte on arrive à bouger beaucoup plus que tous les autres syndicats qui pourtant ensemble ils devaient être 1500 ou 2000, un truc comme ça, sur la ville ou la région proche et ils arrivent à rien faire, les pauvres.
Ok.
Les primes. C'est vrai.
Donc toi, tu apprécies l'efficacité de cet outil de regroupement d'anarchistes de différentes organisations ou pas organisées?
Bah oui, puis maintenant, même les autres, ils commencent à se dire que, en fin de compte, l'action directe, il n'y a que ça qui peut fonctionner. Parce que avant, dès qu'ils voulaient faire la moindre chose, il fallait que ça passe par 3 millions de commissions. Puis ça se perdait en national au niveau de Thibault de la CGT. Je ne sais plus lui, je ne sais plus qui c'est là. Et ça redescendait jamais, ils n'arrivaient jamais à rien faire. Et maintenant, ils font comme nous, même ils commencent à même plus demander d'autorisation à la préf pour faire des petits rassemblements. Ils font des petits trucs informels comme ça, qui sortent des sentiers battus pour des syndicats.
Voilà, donc on revient à la situation locale sur Gap. En quelques mots, qu'est-ce qui se passe et à quoi vous participez et quels résultats ça
a? Ben, nous, niveau lutte ici, c'est spécial parce que par exemple, il n'y a pas d'entreprise. Donc il y a très peu de luttes syndicales de terrain. Il y a beaucoup de profs, d'hospitaliers, tout ça. Mais bon, il y a quand même beaucoup de problèmes écologistes parce que ils veulent profiter du côté désertique pour implanter des lignes THT. Des fois, ils ont des idées d'implanter des Céveso, mais ça marche pas. Il y a l'autoroute, il y a des choses comme ça. Donc c'est ce qui marche le mieux, enfin là où les gens se mobilisent le plus. Mais sinon, on a quand même la chance d'être dans un département petit où ça marche assez bien au niveau du social. Il n'y a pas trop de gens à la rue. Au niveau des sans-papiers, ça va à peu près. On peut dialoguer avec la préfecture directement. Donc, il n'y a pas de lutte dure. Mais en même temps, ça fait des années qu'il n'y a pas de lutte. Et ça peut faire bizarre aussi. Parce que tout est décousu. Il y a vraiment ce déprime. Hein. Vraiment, c'est pas une blague. Ça déprime vraiment, quoi.
Tous les 26 du mois, vous avez fait et vous continuez peut-être à faire un rassemblement pour dénoncer les atrocités du nucléaire à la fois civil et militaire, qui ne font qu'un, mais ça aussi c'est quelque chose qui existe sur place.
Ouais, on a fait ça pendant 2 ans. Moi, là, après l'été, on avait un petit peu calmé, puis on s'est dit qu'on allait peut-être passer sur des luttes plus d'actualité aussi, justement, cette histoire de lignes très haute tension qui veulent nous mettre dans le coin et tout. Mais ça a permis aux gens de voir que à 5 ou 6, vraiment de noyaux. Il y a des gens qui gravitent autour, mais c'est un petit noyau stable depuis 7 ans maintenant, hein, que tu peux faire des choses énormes, très visibles, enfin énormes pour la ville, et que tu n'as pas besoin de tout cet appareil pas possible. Quoi. Tu te regroupes autour du tas, tu te dis ce que tu as envie de faire, et tu le fais, et ça marche très bien. Et les gens, ils nous voient, et ça les impressionne, quoi, qu'on arrive à mettre tout ça en place.
Alors pour l'instant, est-ce que vous avez un local? Ou est-ce que ça ne serait tardé? Ou est-ce que c'est envisagé ou
C'est envisagé depuis un moment. Le problème, c'est comme toujours l'argent. Parce que on travaille, mais on est quand même, pour la plupart, vraiment pas riches. Et c'est difficile de tenir des cotisations sur le long terme, on le voit bien. Mais là, a priori, ça pourrait se faire en lien avec d'autres projets qui prennent forme. Donc il y aurait une idée de bar associatif qui pourrait s'associer à d'autres choses et tout ça.
Alors pour l'instant, comment est-ce qu'on peut vous contacter?
Nous, on a le site internet. Donc, de toute façon, en tapant Kalucha, C-A-L-U-C-H-A, sur n'importe quel moteur, ça va ressortir.
Ok.
Donc ça, on a l'adresse, on a la liste. Et nous, on a une réunion tous les 15 jours, le jeudi, dans une salle de la mairie. Mais des fois, ça change alors les dates. Mais sinon, c'est le jeudi à 18h30, si vous avez le créneau. Et puis du coup la liste mail elle tourne bien. Si vous envoyez un mail, on vous répond en direct, pas de souci.
Ok, il y a des trucs que tu veux rajouter?
Quelque chose qui est quand même particulier ici, c'est que c'est tellement petit qu'en fait tout le monde milite avec tout le monde. Déjà parce que sinon t'es 10, du coup en militant avec tout le monde on est 50. Et aussi qu'en fin de compte les gens avec qui tu pourrais considérer comme un ennemi politique, ils sont avec toi au ping-pong, au badminton, ils sont à la même école que tes enfants et qu'au bout d'un moment ils vont à l'anniversaire des enfants et compagnie. Et ça c'est vraiment particulier par rapport à d'autres grandes villes où j'ai vécu, ce côté que même si bon c'est pas évident hein, quand même de bosser avec des autoritaires et des religieux et tout ça, mais se retrouver comme ça parfois tous autour d'une table, autour d'une lutte concrète, je sais pas s'il y a beaucoup d'endroits ailleurs. Déjà, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il y a des collectifs avec la Fédération anarchiste, les autonomes et l'AIT qui tiennent des années. Alors, c'est l'ambiance du coin. C'est pas mal, la petite campagne.
Merci Hélène pour ce point sur la situation gavançaise.
Eh bien, de rien. Merci à toi et longue vie à la radio du Diwa.
Merci. Touche à
à sa fin et toi tu étais fortement impliqué. Alors est-ce que je peux te demander de te présenter et puis de dire dans quel syndicat t'es, ce que tu fais?
Ok, donc moi je suis Magali, je suis du syndicat de GAP, donc celui qui est invité, qui accueillait. Là aujourd'hui j'étais mandatée en tant que GAPan 16 par mon syndicat avec la majorité des gens de mon syndicat. Du coup, on a pu tourner aussi pour pouvoir être et sur la logistique et sur la gestion de notre mandat.
Ok. Est-ce que je peux te demander de me dire une chose qui t'a plu dans la façon dont vous avez organisé l'accueil ? Une chose qui s'est bien passée, qui a été une bonne surprise, et puis une chose qu'il faudra mieux faire la prochaine fois ?
Alors, une chose qui m'a plu dans l'organisation... en fait, nous, on l'avait déjà organisé une fois il y a 2 ans, me semble-t-il. Et c'était quand même plus carré. Mais du coup, nous, on avait largement apprécié le fait de pouvoir accueillir tous les gens ici, notamment pour les nouvelles personnes qui étaient au syndicat depuis peu et du coup, qui n'avaient pas forcément ni rencontré les gens des autres syndicats, mais aussi qui n'étaient pas forcément bien au courant de comment fonctionnait la CNT dans son intégralité. Du coup, là, je suis très contente de cette chose-là encore parce qu'il y a encore des nouveaux arrivants au syndicat. Donc, c'est toujours une bonne chose. Mmh. En plus de ça, c'est très, très... Nous, ça nous permet d'y être. Donc, moi, j'ai apprécié le fait d'y être déjà parce que du coup, quand c'est dans une autre ville, au vu de nos contextes familiaux et de nos situations personnelles, on ne peut pas forcément y être. Du coup, là, c'est l'avantage énorme d'accueillir. Même si ça peut représenter un niveau de fatigue et d'implication qui est quand même dur à gérer, quoi. Voilà. La deuxième question, c'était qu'est-ce que j'ai trouvé...
Une chose qui t'a surprise, qui m'a surprise.
Alors, il y a quelque chose qui m'a surpris particulièrement à ce congrès, mais du coup, c'était aussi le cas dans le dernier congrès de GAP. Enfin, à GAP, c'est que bien que tous les syndicats soient très éloignés géographiquement et que du coup, on n'ait pas d'autres liens... le reste du temps hors congrès, à part des communications internes, etc. Mais du coup, pas d'autre positionnement global. On se retrouve systématiquement sur des réaffirmations de principes, même si quand on prend part à des votes, les réponses ne sont pas toujours les mêmes. Mais par contre, le fondement de toute la pensée de chaque syndicat est visiblement très similaire. Du coup, c'est... entre les congrès, il y a des CCN. C'est en fait, chaque syndicat s'organise en union régionale. Les unions régionales mandatent des personnes pour aller au CCN, qui est plus de l'ordre de la gestion des campagnes nationales et aussi les logistiques internes et la vérification des mandats et la vérification seulement des mandats d'ailleurs.
Donc tu dis que vous n'avez pas de lien, c'est que vous ne voyez pas, mais il y a quand même une vie confédérale.
Il y a quand même une vie confédérale, mais en tout cas on ne réaffirme logique. Pas ouais, nos ouais. positions hors congrès. Quoi. Du coup ce qui est fou à chaque fois, c'est de se rendre compte que on reste toujours sur les mêmes modes de pensée. Quoi. Alors que chacun a ses petites spécialités. Quoi.
Ok. Et alors, une chose que tu penses qu'il faudra mieux faire la prochaine fois ?
Une chose que je pense qu'il faudrait mieux faire la prochaine fois... de fait, la logistique, elle peut être améliorable. D'ailleurs, elle était mieux la fois d'avant, parce que je pense qu'on a eu plus de temps pour se préparer. Là, on est tous des situations un peu compliquées. Donc, la logistique est améliorée. Et ensuite, notre implication personnelle, parce que là, sur la fin du congrès, et c'est souvent le cas dans les congrès, comme tout le monde est un peu fatigué, je pense qu'il y a plus de personnes qui se permettent d'intervenir très courtement, mais d'intervenir hors prise de parole. On fait un peu plus de questions-réponses, alors que le reste du temps dans le congrès, ça se déroule pas et ça se déroule parfaitement. Il n'y a pas ce genre de choses qui se passent. Avec la fatigue, ça pose problème. Du coup, c'est à noter pour essayer de remédier à ça, peut-être le faire sur plus de jours et donc le faire moins de temps par journée, histoire d'éviter le niveau de fatigue.
Ouais. Ok. Et en tout cas, moi, j'ai pu constater que l'autogestion, ce n'était pas juste un mot. Je vous remercie de nous avoir accueillis, Luc et moi, pour réaliser ce reportage sur le congrès extraordinaire et monographique au sujet de l'AIT, de la Confédération Nationale du Travail, membre de l'Association Internationale du Travail, et puis l'avenir nous réservera encore des surprises bonnes, on l'espère.
avec plaisir, on était très contents que vous soyez là, et puis n'hésitez pas à revenir, même si c'est pas pour des congrès, on apprécie fortement le fait de pouvoir s'exprimer aussi sur le DIY et sur Valence. Donc, au plaisir de vous revoir à Gap.
Ok, et c'est valable pour toi, auditeur, auditrice de Radio DIY. Merci. Aline, nous voilà de retour dans la Drôme après cette escapade de Gap en 16. Merci Luc pour cette collaboration radiophonique. Je tenais à préciser que nous n'avons pas pu interviewer tous les syndicats présents. Nous n'avons pas interviewé les syndicats de Marseille, de Valence, de Grenoble, ni tous les délégués et les observateurs présents. Nous espérons que vous avez passé une bonne écoute. Ça se dit, ça ? Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous et à une prochaine fois.
Et souvent, nos syndicats, ils se réunissent plus lentement et tout ça. Voilà.
Bon, tout à l'heure, non ? C'est fini ? Vous voulez lever la main ? Quelqu'un d'autre ?
En fait, juste, je pense qu'il y a aussi une question.
Interview.
L'interview du jour.